VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 4 décembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Human Rights Watch accuse le président Joseph Kabila d'avoir recruté d'ex-rebelles du M23 pour mater des manifestations en République démocratique du Congo.
En République du Congo, grève des avocats à Brazzaville et à Pointe-Noire pour exiger l'élargissement d'un confrère.
Au Mali, un général démissionne de l'armée pour briguer la présidence en 2018.
Le président palestinien Mahmoud Abbas met en garde contre toute reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël.
Combat à Sanaa au Yémen entre membres de la coalition formée par les rebelles Houthis et les partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Human Rights Watch accuse le régime du président Joseph Kabila d'avoir recruté d'ex-miliciens du M23 pour réprimer les manifestations de décembre 2016 en République démocratique du Congo, une répression qui a fait des dizaines de morts. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Des officiers supérieurs des forces de sécurité en République démocratique du Congo ont mobilisé plus de 200 anciens combattants rebelles du M23 venant des pays voisins, affirme Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. Les forces de sécurité leur ont donné des uniformes neufs et des armes et les ont intégrés dans la police, l'armée et la garde républicaine, le détachement de sécurité présidentielle selon le groupe de défense des droits de l'homme, témoignage à l'appui. Les 19-20 septembre 2016, puis les 19-20 décembre 2016, des Congolais ont manifesté pour demander au président Kabila de quitter le pouvoir. Son deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016, selon la Constitution. Des dizaines de personnes, 62 d'après le rapport de Human Rights Watch, sont mortes dans la répression de ces manifestations. Les conclusions du rapport s'appuient sur plus de 120 entretiens, dont 9 avec des officiers des forces de sécurité congolaises, ainsi que 21 combattants et leaders politiques du M23, selon Human Rights Watch.
Le nombre de réfugiés arrivés en Zambie pour échapper à la violence des milices dans les provinces du Haut-Katanga et du Tanganyika en République démocratique du Congo a dépassé les 12 000. Selon le HCR, plus de 8 400 réfugiés congolais sont arrivés en Zambie au cours des 3 derniers mois, ce qui suggère une aggravation de la situation dans le sud-est de la RDC.
Les forces gouvernementales auraient, dit-on, tué de nombreux civils en réaction à la rébellion dans les provinces en question contre le maintien au pouvoir du président Kabila. Lors d'un entretien avec La Voix de l'Amérique, le porte-parole du HCR, Babar Balogh, a fait état de plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la RDC, dont 200 000 au cours du dernier mois seulement. La majorité des réfugiés sont des femmes et des enfants chassés par l'extrême brutalité des milices qui opèrent dans la région.
En République du Congo, les avocats ont cessé de travailler à Brazzaville et à Pointe-Noire pour exiger l'élargissement d'un confrère. Gabi Dorsil fait le point.
Le bâtonnier du barreau de Brazzaville accuse les agents de la Direction générale de la sécurité du territoire d'avoir maltraité Maître Steve Botongo lors de son arrestation le lundi 27 novembre dernier. Autre incident reproché aux forces de sécurité, l'attaque jeudi à Brazzaville par des individus en civil, de journalistes venus assister à la conférence de presse de 4 avocats d'un opposant emprisonné, André Okombi Salissa. Les 4 avocats, de nationalité congolaise et française, ont dû annuler la rencontre. D'autre part, les avocats de Pointe-Noire affirment que leur assemblée générale samedi a été brutalement interrompue par l'irruption des forces de police lourdement armées et cagoulées. Ils ont donc décidé de faire la grève et d'en appeler au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso pour que cesse ce qu'ils appellent les atteintes à la sécurité et à l'intégrité des membres du barreau.
Au Mali, un haut gradé de l'armée vient de faire acte de candidature pour la présidentielle de l'an prochain. Il s'agit de l'ancien ministre et général Moussa Sanko Koulibaly, dont les proches ont confirmé hier la démission de l'institution militaire. De nouveau, Jean-Roger Bion.
C'est le deuxième personnage de la classe politique au Mali à manifester un intérêt pour la présidence, après l'annonce faite en septembre dernier par le maire de Sikasso, Khalifa Sanogo. Des proches de l'officier ont expliqué ce dimanche à la presse qu'il comptait affronter le président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, au scrutin de 2018. La démission du général Koulibaly, qui satisfait à une exigence légale, lui ouvre la voie à la course présidentielle, alors que le Mali peine encore à organiser des élections de moindre niveau. Par exemple, les élections régionales prévu le 17 décembre ont été reportés à avril 2018 suite aux contestations des signataires de l'accord de paix de 2015. Auparavant, les autorités maliennes avaient dû reporter les élections municipales à plusieurs reprises pour diverses raisons, dont les violences qui sévissent dans le pays. Quant à la présidentielle de 2018, elle devrait se tenir à temps, si l'on en croit les déclarations faites par Ibeka à Jeune Afrique et reprises par l'AFP. Le chef de l'État malien n'a pas encore annoncé son intention de briguer un deuxième mandat.
Au Nigeria, c'est un ancien vice-président, Atiku Abubakar, qui a lui annoncé hier qu'il, et je cite, « revenait à la maison et retournait dans son parti d'origine, aujourd'hui dans l'opposition ». Il s'agit là d'un premier pas avant de briguer la magistrature suprême en 2019. Monsieur Abubakar était le numéro 2 d'Olusegun Obasanjo au pouvoir de 1999 à 2007.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Donald Trump, dans une série de tweets hier matin, a attaqué son propre FBI, disant que la réputation de la police fédérale n'a jamais autant souffert de son histoire et il a promis de lui rendre sa grandeur. Monsieur Trump a également déclaré qu'il n'avait jamais demandé à l'ex-directeur du FBI, James Comey, d'arrêter son enquête sur les contacts de Michael Flynn, son ancien conseiller en matière de sécurité nationale, avec Sergei Kislyak, l'ancien ambassadeur russe aux États-Unis. 48 heures auparavant, Monsieur Flynn avait plaidé coupable d'avoir menti aux agents du FBI sur ses conversations avec M. Kislyak quelques semaines avant l'investiture de M. Trump en janvier dernier.
Toujours à Washington, un membre influent du Sénat a appelé à la relocalisation des familles de militaires américains en Corée du Sud, et ce quelques jours après l'essai par la Corée du Nord d'un missile balistique qui, selon Pyongyang, a la capacité d'atteindre n'importe quel point du territoire américain. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré dimanche que le moment était venu de commencer à transférer les personnes dépendantes du personnel militaire américain hors de la Corée du Sud. C'est fou d'envoyer des conjoints et des enfants en Corée du Sud, étant donné la provocation de la Corée du Nord, a déclaré hier l'élu de la Caroline du Sud sur la chaîne CBS. Après plusieurs mois de calme relatif, la Corée du Nord a tiré la semaine dernière un missile balistique intercontinental qui, selon certains observateurs, montre la capacité de la nation communiste à frapper les États-Unis. Les commentaires de Lindsey Graham font suite à ceux du conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, HR Mark Master, qui a déclaré samedi que les chances de guerre avec la Corée du Nord augmentent chaque jour. L'administration Trump a promis d'enlever à la Corée du Nord la capacité de frapper le territoire américain avec un missile portant une ogive nucléaire. « Je pense que nous manquons vraiment de temps », a averti le sénateur Graham.
Le président palestinien Mahmoud Abbas avertit que toute décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël ou de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem pourrait détruire le processus de paix au Moyen-Orient. Selon certaines informations, le président Trump pourrait faire une annonce à ce sujet dès aujourd'hui. Il pourrait déclarer que les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme la capitale d'Israël, mais retarder le transfert de l'ambassade américaine.
À Sanaa, au Yémen, affrontement au sein de l'alliance entre les rebelles chiites Houthous appuyés par l'Iran et les partisans de l'ex-président Ali Abdallah Saleh. L'alliance formée il y a 3 ans avait chassé de la capitale le président internationalement reconnu, Abed Rabo Mansour Hadi. Ce dernier avait été ainsi formé à fuir et à réclamer l'intervention militaire d'une coalition menée par l'Arabie saoudite. Les Houthis ont accusé M. Saleh de coup d'État contre une alliance à laquelle il n'a jamais cru, c'est une citation, après que ce dernier a offert d'initier des pourparlers avec le camp adverse en tournant la page et en traitant de manière positive avec la coalition saoudienne. Il a demandé en échange que Riyad lève le blocus des ports yéménites.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Écho, Eric Manirakiza.
Le nombre de personnes dans le besoin d'une assistance immédiate à l'échelle mondiale a augmenté de plus de 5%. La sécheresse, les inondations et d'autres catastrophes liées aux conditions météorologiques ont aggravé la situation. Ces facteurs devraient continuer en 2018, et notamment la guerre civile qui ravage plusieurs pays. L'ONU réclame plus de 22 milliards de dollars pour l'aide humanitaire. En Afrique, l'accès au foncier freine le secteur agricole. L'ABAD indique que seuls 40 millions d'hectares des zones de savane sont exploités sur 400 millions d'hectares disponibles. Le continent compte environ 300 millions de personnes mal nourries. Et à marge du sommet Union africaine-Union européenne tenu mercredi et jeudi à Abidjan, l'ABAD a présenté 5 axes qui visent à éclairer l'Afrique. C'est notamment l'alimenter en énergie et la nourrir, travailler à l'industrialiser et améliorer la qualité de vie des populations.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, match amical et international, le Bénin battu hier à Cotonou par le Congo-Brazzaville.
Oui, et c'est sur la marque de 3 buts à 1 que l'équipe locale du Congo est venue dicter sa loi aux écureuils locaux invaincus cette année à domicile. Beryl Obasi, César Ganzé et Prestige Mbougou sont les buteurs congolais. Jules Elegbédé avait réduit la marque pour le Bénin. Pour l'entraîneur adjoint des écureuils, c'est une occasion de tester de nouveaux joueurs. On écoute Visi Touré.
C'est vrai qu'on a eu de nouveaux joueurs qu'on a voulu voir. Parce qu'une équipe, ce n'est pas que les 11 premiers. Je ne vais pas me mettre à dire que c'est les attaquants qui n'ont pas mis des buts ou c'est les défenseurs qui, à un moment donné, n'ont pas su contrôler certaines balles pour franchement un peu mettre de soucis dans la tête des joueurs. Ce qui est sûr, si le temps nous permet, on aura le temps de corriger, de savoir encore voir d'autres personnes, histoire de les intégrer.
Les Diables Rouges qui préparent le CHAN 2018 ont eu un match qui est loin d'être parfait selon leur entraîneur. Bartlemy Ngassono est tout de même satisfait de cette victoire.
Oui, satisfait parce qu'il y a la victoire. Ce n'est pas parce qu'on a gagné que tout est parfait. Ce match nous a permis, n'est-ce pas, de voir à quel niveau notre équipe se situe, pour que l'on essaie un peu de se replacer sur le plan du travail. Donc je dis satisfait pour la victoire, oui, mais quelque part il y a eu aussi des manquements qu'il va falloir travailler.
Le CHAN, réservé aux joueurs locaux, aura lieu au Maroc du 12 janvier au 4 février 2018.
Retour sur le tirage au sort du premier tour du Mondial 2018, c'était à Moscou.
Oui, un tirage au sort, on s'en doutait Idrissa, qui est loin d'être clément pour les 5 représentants africains. Commençons par ceux qui s'en sortent le mieux. Le Sénégal, placé dans le groupe H, plutôt équilibré avec la Pologne, la Colombie et le Japon. C'est jouable aussi pour l'Égypte. Les vice-champions d'Afrique joueront le pays hôte, la Russie, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite.
Pour le reste, ce sera un tirage un peu compliqué.
Notamment pour la Tunisie, les Aigles de Carthage auront en face le Panama qui est jouable, mais surtout deux grands du foot européen, la Belgique et l'Angleterre. Pas facile non plus pour le Nigeria qui est logé dans le groupe de l'Argentine comme en 2014, de l'Islande et de la Croatie. Et puis plus difficile, le groupe B du Maroc qui va batailler fort avec le Portugal, champion d'Europe en titre, de l'Espagne, championne du monde en 2010 et de l'Iran sans doute la meilleure équipe d'Asie. On rappelle que seuls les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Une Coupe du Monde qui va démarrer le 14 juin prochain pour prendre fin un mois plus tard.
De l'athlétisme à présent avec le 5e marathon du Gabon.
Ils sont 5000 coureurs à prendre part à cette édition de 2017 dans les rues de Libreville, la capitale gabonaise. Et à l'arrivée, c'est le Kenyan Peter Kirui qui s'impose comme en 2013. Il devance son compatriote Dominique Kangor. Une victoire kenyane puisque c'est un autre Kenyan, Paul Maina, qui complète le podium.
Du handball féminin, le mondial en Allemagne.
Et rien ne va pour les sélections africaines qui, en 2 sorties, ont enregistré autant de défaites. L'Angola, dans le groupe A, a perdu face à la France 19-26. Deuxième défaite également pour la Tunisie, dans le groupe C, cette fois de justesse face au Brésil 22-23. Enfin, le Cameroun, troisième nation africaine qualifiée pour ce mondial, a subi la loi de la Serbie 21-34. Et puis, terminons avec du basketball avec vous Idrissa, les résultats de la nuit à NBA.
Orlando Magic et New York Knicks, 105-100. Golden State Warriors et Miami Heat, 123-95. LA Clippers et Minnesota Timberwolves, 106-112. San Antonio Spurs et Oklahoma City Thunder, 87-90.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, trois gendarmes de la localité de Ouélé Sébougou ont été arrêtés et emprisonnés à cause de la perte d'une arme qui a été ensuite utilisée dans le braquage d'une station essence. Indignation au sein de la population déjà victime de divers crimes. Elle a organisé un meeting pour exiger la justice dans cette affaire. Compte rendu de notre correspondant Kassim Traoré.
En cette matinée de dimanche, Ouélé Sébougou était bien animé. Les marchés ambiants avec des commerces ouverts. Non loin de cette ambiance bon enfant, la maison des jeunes était prise d'assaut par les jeunes venus des 44 villages de la commune de Ouélé Sébougou, située à 80 km de Bamako. Soumaïla Samakedi Youssouf, secrétaire général des jeunes.
Les raisons de ces grands meetings, le premier élément, ça c'est les vols, les problèmes sécuritaires dans la commune, pas seulement dans la ville de Ouélé Sébougou et Tintou, mais dans les 44 villages. Il y a eu une attaque le vendredi passé à partir de 3h du matin dans la station de Badié Traoré, un grand commerçant de la place. À partir de 3h du matin, un malfrat a attaqué des vendeurs et empoché une très grande somme. Les voleurs étaient munis d'une arme provenant de la gendarmerie de Ouélé Sébougou.
Aussitôt informé du braquage de la station Petro du Toumou, les éléments de la gendarmerie ont commencé les enquêtes. Ils ont arrêté un suspect avec une arme, Sada Diawara, habitant de Ouélé Sébougou.
C'est une arme d'un gendarme et cela a été vérifié par le CB, le commandant de brigade de la question actuellement qui est là. Et c'est ce qui a fait que quand on l'a appelé à un premier temps, on lui a demandé, le CB lui a appelé, demande où est votre arme. Il dit que l'arme est dans son véhicule. 5-10 minutes après, le même gendarme a rappelé son CB qui dit que non, lui, il n'a plus son arme. L'arme était dans le véhicule, mais l'arme n'est plus là. Et ça trouve déjà que l'intéressé qui avait son arme, qui a braqué avec son arme, il s'était déjà évadé. Parce que le petit en question faisait du thé pour les gendarmes à la gendarmerie. Bon, c'est comme s'il était. On l'envoyait faire des petites courses. Et celui-là, il a braqué avec une arme aussi pour un gendarme. L'institution est déjà là.
Tout Ouélé Sébougou était scandalisé en apprenant que l'arme du braqueur appartenait à un agent de la gendarmerie nationale. D'où cet appel du maire Yaya Samaki.
C'est une situation inadmissible parce que ceux-là même qui sont chargés de vous sécuriser, si ce sont eux les premiers bandits, vraiment on se dit où est-ce que nous allons finalement dans notre commune. Compte tenu de l'attitude aussi de la hiérarchie de la gendarmerie, on peut dire que vraiment cette dernière ne voudrait pas que encore ce genre d'actes soit posé encore précisément à Ouélé Sébougou. Et l'appel que j'ai à lancer aux populations, c'est de les inviter à la retenue.
Lors du meeting, la confrérie des chasseurs, les commerçants disent qu'ils sont fatigués. Les chasseurs proposent la mise en place des brigades de veille. Marc Damélé, secrétaire aux relations extérieures des commerçants de Ouélé Sébougou.
Chaque jour, on entend des cas de vol, des cas de vol de motos, des cas de vol de vaches, les braquages pour les motos. Vraiment, les gens de Ouélé Sébougou sont fatigués. On est fatigués. Vraiment, on veut que la solution soit résolue à l'amiable pour que les gens puissent avoir satisfaction. L'appel que j'ai à lancer pour les autres, il faut qu'ils fassent leur devoir.
Du côté de la gendarmerie nationale, on nous informe que le commandant de la brigade de Ouélé Sébougou ainsi que deux de ses agents sont arrêtés. Un second suspect est au niveau de la prison de Ouélé Sébougou et l'enquête va se poursuivre. Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Bénin, 65% des électeurs ont porté leurs espoirs sur Patrice Talon lors de la présidentielle il y a plus de 18 mois. Plus de la moitié d'entre eux regretteraient déjà leur choix, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
La justice doit pouvoir être dite par le peuple. Le peuple doit se mettre debout. À partir de la semaine prochaine, une grève générale sera déclenchée par la CSTB.
C'est une menace brandie par les syndicalistes depuis quelques mois. Le refrain est quotidien. La terre d'abondance que les Béninois espéraient tarde à venir et dans les secteurs d'activité, ça grogne. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin peint d'ailleurs un tableau des plus chaotiques.
La situation nationale est marquée par une crise multidimensionnelle qui a affecte la vie politique, économique et sociale et a instauré un mal-vivre profond et général.
Au sein des organisations de la société civile, la déception est à la taille des attentes suscitées par l'élection de Patrice Talon. La mouvance grandit de jour en jour alors que l'opposition se limite à quelques-uns tenant encore le pari de la résistance. Pour Noël Chadaré de la Cosi Béné, le gouvernement actuel est une copie conforme de celui tant combattu et qui était dirigé par Yahya Boni.
On constate qu'il n'y a pas véritablement une rupture avec la, c'est ce qui se faisait par le passé qui est en train de continuer de se faire. Donc nous voulons vraiment que cela cesse un peu dans notre pays parce qu'on ne peut pas changer de gouvernement, d'homme aussi à tête et constater que les mêmes choses qui se produisaient continuent de, n'est-ce pas, de se produire parce qu'il est venu sous le sceau de la rupture.
Dans le souci d'assainir les finances de l'État et la gestion de la chose publique, plusieurs acteurs sont audités régulièrement par la brigade économique et financière et aux besoins conduits devant le procureur pour expliquer cet décaissement inhabituel. C'est dans ce cadre qu'un syndicaliste connu pour sa virulence contre le pouvoir en place et plusieurs de ses collègues font l'objet d'un mandat de dépôt. Il n'en fallait pas plus pour que la situation sociale monte d'un cran. Pour les avocats de ces prévenus, le pouvoir est dans l'abus.
La preuve n'a pas été rapportée que les montants ont été remis à nos clients et donc normalement, en l'absence de preuve, on ne devrait pas aller plus loin, encore moins les mettre sous mandat de dépôt.
Voilà un dossier où il y a eu des perquisitions au domicile des différentes personnes mises sous mandat de dépôt aujourd'hui. Les perquisitions ont été toutes infructueuses. À défaut de trouver de l'argent, on est allé saisir de petites bouteilles de champagne. Et c'est sur la base de bouteilles de champagne qu'on a placé sous mandat de dépôt M. Laurent Métognon.
Du piratage des fréquences de certaines radios, désormais très critiques vis-à-vis du pouvoir, la privatisation ou mise en affermage de certaines sociétés d'État, les Béninois espèrent que le président pourrait sortir le pays de la morosité et qu'ils n'auront pas à serrer indéfiniment la ceinture. De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
Au Burundi, projet d'extension de Bujumbura, la capitale, d'ici à 2045, c'est ce qui est prévu dans le cadre d'un plan directeur qui vise à faire de cette ville de plus de 800 000 habitants une agglomération de plus de 4 millions d'habitants à cette date. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Kurunziza.
Le tambour était bel et bien présent lors du lancement officiel du projet Bujumbura Vision 2045, ce plan directeur pour une autre image de la capitale burundaise d'ici 20 ans. Le président Pierre Nkurunziza appelle les investisseurs à s'associer à la construction de grands hôtels ou lieux de conférences. Trois pôles composent cette nouvelle ville de Bujumbura, comme le précise le président burundais.
Au nord, une nouvelle ville sera construite avec comme capitale la localité de Guianza, zone industrielle et agricole et d'élevage. Au milieu, la ville dans laquelle nous vivons aujourd'hui sera réservée au commerce et à l'administration et le sud de la capitale consacré uniquement au tourisme. Ce projet que nous démarrons officiellement ce mardi est le lancement des travaux qui vont changer le visage de notre principale ville et de notre pays.
Cette nouvelle ville de Bujumbura sera un prélude à d'autres projets de développement. Quels sont donc les objectifs affichés par le gouvernement? Le ministre de l'aménagement du territoire, Célestin Ndayizeye.
Il va y avoir augmentation d'industries et du travail et d'autres projets de protection de l'environnement pour un développement durable. Ce projet a quatre objectifs principaux. D'abord, accueillir plus de 4 millions d'habitants et tous les services qui vont avec pour embellir une ville moderne. Deuxièmement, donner une autre image de Bujumbura qui va augmenter le nombre des touristes dans les régions des Grands Lacs africains. Troisièmement, faire de Bujumbura un carrefour. Et quatrièmement, protéger d'une façon durable l'environnement et bâtir une nouvelle ville en protégeant l'écosystème.
Le représentant de Singapore Cooperation Enterprise, qui a fait la nouvelle maquette sur proposition du programme des Nations Unies pour le développement au Burundi, indique que ce projet, dont on ne connaît pas le coût exact en termes de milliards de dollars, est réalisable.
Projet qui a débuté en 2014, qui a signé un accord trilatéral entre le gouvernement du Burundi, le gouvernement de Singapour, avec l'appui du PNUD. Donc c'est un accord sud-sud que Singapour et Burundi ont collaboré dans ce projet. Le représentant résident de BNUD a bien mentionné que Singapour est un pays qui a prospéré en 40 ans. Si ça a été fait en Asie, à Singapour, c'est impossible de le faire même à Bujumbura.
L'ambassadeur de France au Burundi, Laurent Delahousse, estime pour sa part que la concrétisation de ce projet immense nécessite une amélioration fondamentale du contexte politique et économique du Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Afrique centrale, plus de 10 millions d'hectares de terres forestières ont disparu au cours de ces 10 dernières années dans les pays de cette région à cause des grands projets d'investissement. C'est ce qui ressort d'une étude menée par 4 organisations non gouvernementales du Gabon, du Congo, de la République centrafricaine et du Cameroun. Illustration dans ce dernier pays, le village de Tutuli, situé à une quinzaine de kilomètres de Yaoundé et où la construction de l'autoroute a eu un impact sur l'environnement de ce village. Notre correspondant Emmanuel Jules Ntap s'y est rendu.
L'autoroute en construction entre l'aéroport international de Yaoundé-Simalène et le centre-ville traverse le petit village de Tutuli, sur près de 6 kilomètres. Les travaux avancent, mais non sans dégâts, sur les terres forestières du village. Tarsis Oona est originaire de Tutuli.
On avait perdu beaucoup de terrain et plantes. Et on nous dit qu'ils doivent encore prendre 100 mètres. On a écrit déjà, mais on attend seulement la réaction du président.
Et si on prendrait 50 mètres, vous serez concerné?
Oui, je serai concerné.
Une partie du village Tutuli a été rasée pour faire passer l'autoroute. Le massif forestier a disparu par endroits. Tarsis Oona.
On avait les champs. On nous donnait les 100 000, 50 000, comme ça. Le préfet qui est venu indemniser. On voulait lui poser des questions. Il a dit qu'il n'a pas de questions à lui poser. Il est venu seulement donner l'argent.
La situation est pareille dans de nombreuses localités du Gabon, du Congo et de la République centrafricaine, souligne Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement CED, une ONG camerounaise ayant participé à l'étude sur les conversions des forêts pour les grands projets d'investissement en Afrique centrale.
On voit dans nos pays depuis une dizaine d'années un nombre important d'investisseurs dans le secteur minier, l'agro-industrie et surtout dans les grandes infrastructures. Tout cela a pour but de conduire nos pays vers l'émergence. Mais tout cela peut se faire au détriment de la forêt si on y prend garde. Il faut penser au développement, mais il faut faire un développement compatible avec les objectifs de protection de la forêt. Donc c'est une réflexion qu'on amorce en se disant qu'elle pourra déboucher sur des propositions formulées aussi bien au Cameroun que dans les autres dans lesquelles le projet se met en œuvre, c'est-à-dire la RCA, la République du Congo et le Gabon.
Pour conserver les terres forestières du Cameroun et dans les 3 autres pays objets de l'étude, il importe de faire respecter les textes juridiques sur l'exploitation forestière. Marie-Madeleine Bassalang, consultante juriste environnement en ressources naturelles, de Rainbow Forest.
Lorsque ces textes ont été développés, le phénomène de conversion n'était pas ce que l'on observe aujourd'hui. Environ 10 millions d'hectares de forêts ont été mises à disposition pour la réalisation de ces projets. Nous savons que les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon forestier mondial après celui de l'Amazonie et ces défrichements excessifs font en sorte que cette réserve de séquestration de carbone commence à être un peu trop impactée par les activités de développement économique.
Les auteurs de l'étude ont interpellé les pouvoirs publics des pays concernés à respecter leurs engagements internationaux de protection et de préservation des forêts. Emmanuel Jumtap, Yaoundé, VOA Afrique.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la Voix de l'Amérique.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.